Bonjour Stanislas.
Alors, dans cette vidéo et les prochaines minutes, nous allons parler des nouveautés des services réseau, et plus particulièrement pour les services d'infrastructure de Windows Azure, ou de Microsoft Azure désormais, vu que le nom a changé. Donc on est sur du IaaS, de l'infrastructure de service, et on va regarder un petit peu quelles sont toutes les nouveautés qui ont pu être annoncées, notamment lors de l'événement TechEd North America qui a eu lieu au mois de mai 2014.
Exactement. Bon, au niveau des machines que tu vas mettre sur Microsoft Azure, tu vas les mettre dans des réseaux virtuels. Ces réseaux virtuels sont situés dans Azure et tu vas assez basiquement créer des réseaux qui sont à l'intérieur de la RFC 1918, donc du 192.168, 172.16, 10 et quelques. Tu crées ces gros réseaux, tu peux leur créer des sous-réseaux. Ces sous-réseaux vont être routés automatiquement par Azure. C'est ça la magie de la chose. Et puis globalement, tu vas aller positionner tes VM dedans. Un petit peu comme tu veux faire ton organisation. Si tu veux mettre tous tes contrôleurs de domaine dans un sous-réseau et tous tes serveurs back-end SQL par exemple dans un autre sous-réseau, ben, tu as la possibilité de le faire et le routage sera fait automatiquement par la plateforme. Ce qu'il faut noter, c'est que par défaut, les adresses IP sont attribuées automatiquement par le contrôleur de fabrique d'Azure, hein, c'est-à-dire qu'automatiquement, la machine virtuelle qui est positionnée dans un réseau virtuel aura une adresse IP qu'il ne faudra surtout pas toucher. Elle sera distribuée par le DHCP d'Azure en fait.
Voilà, donc ne pas mettre à la main l'adresse IP dans une machine virtuelle, c'est une mauvaise idée.
Voilà, si on veut faire une adresse IP statique sur cette machine virtuelle, alors il y a une petite commande PowerShell, mais ça fait l'objet d'une autre vidéo. Et puis il y a un autre service qui est présent dans ce réseau virtuel, simplement c'est la résolution de noms, qui peut être soit le résolveur de noms Azure, qui est très basique, qui permet simplement de résoudre les noms de l'Internet et les noms des quelques VM locales sur le même VNet, ou alors si on veut des choses un petit peu plus élaborées et surtout avoir une consistance de noms en fait entre Azure et son data center, on utilisera sans doute plutôt un DNS intégré à Active Directory ou tout autre DNS qui serait dans une machine virtuelle qu'on viendra porter dans Azure.
Alors peut-être les éléments de base, les rappeler, c'est qu'on va pas mal parler d'IP dans les prochaines minutes. On parle d'IPv4.
Alors pour l'instant, c'est effectivement de l'IPv4.
Certes, IPv6 n'a jamais été aussi proche d'éclore, on va dire, à grande échelle. Mais pour l'instant, on est effectivement là, on va vous parler d'IPv4. IPv6 arrivera. On est sur du perpétuel changement, donc si on a une grosse demande sur IPv6, ça arrivera très rapidement.
C'est déjà prêt, mais donc comme on n'a pas une grosse demande client, on n'a pas décidé de le mettre en œuvre.
C'était pas une priorité. Voilà. Pour l'instant. Donc on a quand même une limitation aujourd'hui qui est d'avoir une seule interface réseau par machine virtuelle. On ne supporte ni le broadcast ni le multicast. Et comme tu l'as dit tout à l'heure relativement bien, dans les machines virtuelles dans Microsoft Azure, en fait, reçoit des adresses IP de la part de la fabrique Azure, qui est une sorte de gros DHCP serveur. Et si on veut pouvoir fixer une adresse IP, désormais c'est possible, c'est partie des nouveautés, on va pouvoir fixer l'adresse IP d'une machine virtuelle via une commande PowerShell, donc cette Azure Static VNet IP, et donc fixer une adresse dans la plage, bien entendu, du VNet.
Au niveau des réseaux virtuels, il y a aussi une nouveauté, on appelle les réseaux virtuels maintenant des réseaux régionaux. On avait auparavant une création de réseau virtuel qui était attribuée au groupe d'affinité. C'est une notion qui a changé maintenant. Alors ça c'est important parce que ça veut dire qu'on va pouvoir en fait interconnecter des machines virtuelles de tout type entre elles. C'est-à-dire qu'avant on était en fait limité à des communications qui pouvaient passer entre machines de même cluster. Donc on pouvait discuter entre machines de même catégorie. Simplement on a introduit maintenant dans Azure des nouvelles machines A8 et A9 qui sont des machines très très puissantes et on n'avait pas de communication directe possible jusqu'à présent.
Quand on parle de cluster, c'est des gros groupes de serveurs Hyper-V qui en fait hébergent les machines Azure. Et effectivement, historiquement on a énormément d'AMD, de serveurs à base de processeurs AMD. Et avec les A8 A9, on commence à avoir des machines sur processeur Intel Xeon. Et donc, du coup, effectivement, ce sont d'autres racks de serveurs et d'autres clusters.
Alors, tout à fait. Alors, chose qui est importante à préciser à ce stade-là de la présentation, c'est que ces réseaux régionaux, ce sont eux qui vont apporter un certain nombre de nouveautés, comme avoir la possibilité, en fait, d'établir une liaison entre plusieurs réseaux multisites avec plusieurs sites distants. Eh bien, en fait, il faut, pour bénéficier de ces fonctionnalités, être dans un mode de réseau régional. Alors, c'est un truc intéressant parce que si on avait créé auparavant des réseaux liés aux affinités, eh bien, en fait, il va falloir faire une opération de migration pour basculer ce réseau de type affinité en réseau de type régional.
Migration consistant à recréer un nouveau réseau à côté et plutôt déplacer les machines virtuelles que de chercher à migrer le réseau, c'est ça?
Alors exactement, la manip en fait elle va être simple dans le principe, c'est-à-dire qu'on va exporter la configuration, la réexporter en changeant le type dans le fichier XML, mais bon c'est une petite mesure qui nécessite un petit peu de planification et un petit peu de downtime.
Et un petit peu de CPU effectivement intellectuel de la part de tout le monde pour bien aménager tout ça.
Oui, et un prérequis, c'est qu'il faut réfléchir un petit peu avant, effectivement. Ouais. Tu fais bien de le préciser, Stanislas. Alors, dans les nouveautés de Azure, pour le réseau également, les réseaux, on est toujours sur la partie locale, hein, cette fois-ci le internal load balancing. Tu sais qu'on a la possibilité de faire du load balancing, donc avoir une adresse IP virtuelle qui va pointer vers un ensemble de ressources à l'intérieur d'un cloud service. Donc ça, c'est normal, on le connaît. Maintenant, ce qu'on a la possibilité de faire dans Azure, c'est de pointer vers des ressources qui peuvent ne pas être à l'intérieur d'un cloud service. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer une adresse IP, une VIP à l'intérieur de ton réseau virtuel Azure. Et cette VIP, elle va pouvoir pointer vers des ressources qui sont dans ton cloud service, ailleurs, dans Azure, ou dans ton réseau data center. Comme ça, tu pourras faire très facilement des scénarios où tu pourras pointer vers plusieurs serveurs. On va dire qu'il y en a un qui est indisponible sur Azure, tu vas pointer vers un autre qui est dans ton data center. Donc ça commence à faire des scénarios assez intéressants et assez élaborés avec toutes les possibilités multisites dont on va discuter ultérieurement. Ça se passe en PowerShell pour spécifier tout ça. Donc c'est la commande new Azure Internal Load Balancer qui permet de créer la configuration et ensuite on ajoute des endpoints. Donc avec le add Azure Internal Load Balancer, on va dire tu prends telle adresse IP en interne, telle adresse IP, tu vas le forwarder vers tel port, tu vas faire un probing ou pas sur ce port pour voir si la machine est toujours live. C'est comme ça que ça se passe en PowerShell.
Ouais, petite chose à préciser, c'est qu'effectivement on a beaucoup de PowerShell dans toutes ces nouveautés. Hein. Donc, beaucoup de choses ne se font qu'en PowerShell. La raison étant que, en fait, comme la plateforme cloud évolue en permanence, on a du développement qui est fait par les équipes produits pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Le portail et le design ne suivent pas toujours derrière, et la priorité, effectivement, d'apporter souvent la fonctionnalité, et puis après, de voir ou pas si elles sont mises dans l'interface graphique. Donc, il ne faut pas avoir peur de PowerShell, mais sachez que vous ne pouvez pas outrepasser le fait de devoir faire un moment ou un autre du PowerShell si vous voulez certaines de ces fonctionnalités.
Alors, ça fait un peu peur au début, mais l'avantage c'est qu'il y a un très bel ISE sur Windows, un environnement de scripting intégré, qui permet de faire ça, du scripting, même en cliquant. En tapant quelques noms, mais quelques clics.
Faut connaître un petit peu pour savoir ce que tu tapes, mais ça va.
Alors, nouveauté intéressante en matière de communication entre les réseaux virtuels, Stanislas.
Oui, alors ça c'est une nouveauté, donc jusqu'ici on pouvait, on va le voir tout à l'heure, faire du VPN de Azure vers un data center. Désormais on va pouvoir également créer plusieurs VNet, mettons par exemple un VNet en Europe, un VNet aux États-Unis, et interconnecter ces deux VNet. On peut même mettre un troisième VNet en Europe et interconnecter deux VNet Europe et le tout vers un VNet aux États-Unis. Donc ça permet de répartir éventuellement des machines sur différentes plaques géographiques, des machines virtuelles dans le IaaS. Et puis ça permet d'isoler finalement un petit peu ces serveurs et applications parce que c'est une communication qui est chiffrée de VNet à VNet. Ce n'est pas une communication directe par Internet. Là, on est encore sur une technologie à base d'IPsec ou de VPN site à site. Alors à noter, c'est qu'au sein d'une même région, par exemple, prenez entre l'Europe, donc Dublin et Amsterdam, on peut faire un VNet avec un VNet à Dublin, un VNet à Amsterdam, interconnecter les deux de manière sécurisée. Les communications dans ce cas-là ne seront pas en fait facturées, les échanges de données. Par contre, si on commence à sortir des régions, on va faire Europe vers destination des États-Unis, par exemple, là, on aura un trafic extra-facturé au trafic sortant. Donc, un petit peu de réflexion avant quand même sur effectivement le volume qui aura potentiellement déplacé par rapport aux bénéfices.
Parfait. Et ça, c'est aussi intéressant, je me permets d'ajouter ça, Stanislas, hein, sur les scénarios où type, tu veux faire communiquer en fait des instances qui seraient dans des abonnements différents, par exemple. Comment est-ce que tu interconnectes des abonnements différents pour qu'ils puissent communiquer entre elles? C'est une des possibilités d'utiliser ça.
Donc on peut imaginer l'abonnement de pré-prod et l'abonnement de prod qui sont interconnectés grâce à ces choses-là, par exemple.
Absolument. Pour cette interconnexion avec les réseaux virtuels Azure, on l'a discuté. Hein, on a soit la partie qu'on publie avec l'extérieur, avec le load balancer d'Azure. Donc ça, c'est la manière d'accéder à une application par l'Internet, publiée sur un endpoint externe qui soit load balancé. Et là, il y a quelques nouveautés dont on va discuter dans quelques minutes. Et puis, il y a les options classiques de connectivité où on a une connexion point à site, en VPN point à site, c'est-à-dire que tu as un utilisateur qui va se connecter en utilisant le Connectoid, le Client Manager, VPN de Windows classique, et puis il va établir une liaison en utilisant les protocoles habituels dont on va discuter dans quelques instants.
En fait, c'est du VPN nomade, en fait.
Voilà, du VPN, comme on se connecte au VPN de l'entreprise à l'heure actuelle. Et puis, une autre option qui là est plutôt pour le mode data center, d'interconnecter Azure avec un site de l'entreprise, soit en mode site-to-site VPN, donc en passant par de l'IP, en passant par Internet, soit en passant sur du MPLS, la liaison louée, en utilisant ExpressRoute, dont on va discuter tout à l'heure. Alors, je vous le disais, hein, pour le canal public, pour tout ce qui doit arriver comme flux depuis l'Internet, on a un certain nombre de nouveautés. On a la réservation notamment d'adresse IP publique maintenant, qui permet d'attribuer de manière statique à un cloud service une adresse IP. C'est-à-dire que je vais pouvoir complètement déprovisionner un cloud service pendant un instant T, mais l'adresse IP ne va pas être recyclée. C'est-à-dire que si je dois faire une opération de maintenance et venir repluguer un nouveau cloud service sur la même IP pour faire une petite opération, par exemple, eh ben, c'est tout à fait possible. Pour ça, de la même manière, j'utilise du PowerShell. En fait, je fais une new Azure Reserved IP et ça va me permettre de prendre une adresse IP dans un pool Azure, dans une région Azure.
Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, en fait, quand on avait un load balancing comme ça, l'option numéro 1, c'était je fais un CNAME sur mon instrument DNS pour être certain de toujours arriver sur mon cloud service, en considérant qu'il était toujours démarré. Mm-hmm. Enfin, même s'il a démarré, à la limite, c'était le nom qui était résolu. Et si on voulait utiliser l'adresse IP, il fallait surtout jamais arrêter au moins une des instances, sinon on perdait la VIP, en fait. Désormais, elle est réservée.
Absolument. Alors, chose qui est intéressante à noter, on a 5 adresses IP publiques qui sont disponibles avec chaque abonnement Azure.
Ce qui, en 2014, vaut de l'or quand même.
Alors ça, c'est quand même une belle extravagance. Hein. Plein d'adresses IP disponibles pour faire plein de choses. Alors, ce qui est noté, c'est que on va la mettre à disposition gratuitement dans le cadre de l'abonnement si elle est utilisée. Si j'ai une adresse IP que j'utilise dans un cloud service, alors on considère que ça fait partie de l'abonnement et toutes les communications classiques vont passer par elle, donc il y aura quelque part une sorte de facturation d'utilisation de l'adresse IP. Si tu réserves une adresse IP mais tu ne la consommes pas, alors là on va te la facturer à l'heure. Parce qu'évidemment,
si on crée une réservation et qu'on n'associe pas cette réservation à un service quelconque.
Voilà, en gros tu bloques une adresse IP, quoi. Tu squattes une adresse IP que tu n'utilises pas dans aucun service. C'est un petit peu embêtant, c'est une denrée rare, du coup, pour dissuader ce parking d'adresse IP, entre guillemets, on le facture à l'heure. Bien évidemment, c'est ce qui est inclus par défaut, 5 adresses IP, mais si vous en avez besoin de plus, on vous en fournira avec plaisir plus, au ceci près que ce sera évidemment facturé par rapport à son utilisation.
À quoi correspondent les 100 remap?
Eh bien, c'est pour changer en fait un mappage entre une adresse IP d'un service et un autre. Donc c'est rechanger, rebasculer d'un cloud service à l'autre une réservation d'adresse IP.
D'accord.
Attribution d'adresse IP publique par instance de VM, on peut de la même manière également avoir maintenant une machine virtuelle qui a une adresse IP individuelle vis-à-vis de l'Internet. C'est-à-dire qu'avant, en fait, tu avais une adresse IP du load balancer public, de ton cloud service, et qui allait pouvoir cacher en fait plusieurs machines virtuelles. On a la possibilité maintenant, et on en a deux par défaut, avec ce service en mode preview, la possibilité d'attribuer une adresse IP par machine virtuelle. Du coup, j'ai la possibilité d'activer sur ma VM directement des applications comme le FTP ou comme d'autres petites choses qui sont très sensibles à l'adresse IP ou tu as par exemple une dynamicité des ports. Donc tu as une première communication sur un port et ensuite tu as une négociation d'un port dynamique comme peut le faire FTP.
FTP est un grand classique. Je vois ici que tu as marqué pare-feu personnel important. Effectivement, vu qu'on va rediriger l'ensemble des flux d'une VIP à destination de machine virtuelle, c'est bien que la machine virtuelle ait un filtrage minimum.
Alors effectivement, on ne rencontre plus ça à l'heure actuelle dans les entreprises, mais certains, à une certaine époque, avaient tendance à débloquer le firewall host sur leur serveur.
Débloquer étant le mettre en off.
Étant le désactiver, tout simplement. Ça peut être évidemment problématique d'avoir une VM directement exposée au niveau d'Internet sans firewall.
Oui, c'est un petit peu comme se balader à poil en Far West, en fait. C'est un peu dangereux.
C'est une belle analogie, effectivement. Ouais. Autre nouveauté, autre évolution au niveau du Traffic Manager d'Azure. Le Traffic Manager, c'est quoi? C'est en gros le service, le méga DNS d'Azure. Ça va permettre, par exemple, de gérer le load balancing entre différents endpoints, différents services. Donc le Traffic Manager, on a la possibilité d'ores et déjà d'envoyer une résolution de nom. Donc là, tu vois, par exemple, le contoso.trafficmanager, je pouvais l'envoyer vers différents cloud services pour avoir la haute disponibilité du service. Eh bien, ce qu'on annonçait de nouveau récemment, c'est la possibilité en fait d'avoir des noms qui ne soient pas des noms internes au cloud service. C'est-à-dire que je peux renvoyer vers différents records qui ne sont pas des records d'Azure. Alors, je peux envoyer une fois sur un cloud service qui est toto.cloudservice.net et une fois je peux renvoyer par exemple via microsoft.com, petite blague par exemple. Donc on a comme ça la possibilité d'utiliser ce service. Alors le load balancing et le endpoint monitoring va être fait pour évidemment pas renvoyer des clients sur des endpoints par exemple qui ne répondraient pas sur le port 80 ou sur le port 443, ce qui serait un petit peu ballot. Et puis les modes de répartition de charges qui sont disponibles, c'est le mode performance. Donc on va renvoyer au client le record qui est le plus proche de lui en premier.
On se base sur les propriétés géographiques des adresses IP.
Exactement.
Intéressant.
Ce qui est intéressant, ce qui permet de répondre aux besoins dans une majorité des cas pour l'instant. On a un round robin classique, hein. Donc là on envoie de manière.
On tourne, voilà, premier, deuxième, troisième.
À chaque fois. Et puis on a un mode failover où on renvoie directement au backup en fait.
Donc c'est prod, backup, prod,
ouais, ou backup. Exactement. Ce qui de toute façon est le cas pour les autres applications déjà. Hein. S'il n'y en a aucun des modes performance qui fonctionne, ben on va tout de suite renvoyer quand même vers le backup.
D'accord.
Donc ça c'est l'Azure Traffic Manager et c'est sa petite évolution qu'on vient d'annoncer.
Alors, interconnecter un data center avec Azure, deux options, tu as commencé à en parler tout à l'heure. La première, le VPN site à site ou site to site VPN, qui consiste effectivement à faire un tunnel IPsec entre le data center et un des data centers de Azure. Donc on va dire vers un VNet étant effectivement dans un data center. Donc on a dû, après c'est de l'IPsec tout à fait classique, un chiffrement 9256. L'authentification aujourd'hui se fait toujours par clé partagée, donc c'est-à-dire que des deux côtés on doit connaître la même clé. Hein, donc, alors la montée en charge est possible, ça effectivement ce sera la taille des services de gateway chez nous qui seront plus ou moins importants. Tolérance de panne possible, en fait, du côté du data center de Windows Azure, la passerelle VPN, en fait, une passerelle redondée en mode actif-passif. Donc, si on a un problème sur la machine virtuelle ou le VPN physique derrière a un problème, il y a un relais qui est fait de manière automatique et remontage du tuyau à la volée. Contrôle granulaire des communications, du coup après on fait un petit peu ce qu'on veut à l'intérieur, on ouvre un tunnel mais on peut après filtrer le tunnel. Le routage peut être statique ou dynamique, là ça va dépendre en fait de vos passerelles. Typiquement si votre serveur de passerelle c'est du Windows Server 2012 R2, on sera dans du mode dynamique. Dans la plupart du temps on sera souvent dans des modes statiques, après en fonction des équipements utilisés. Attention, pas de variable de subnet, on n'est pas ici, on est sur du routage, donc pas de translation d'adresse, donc ça veut dire que les adresses que vous allez choisir et affecter aux subnets qui sont dans Windows Azure ne doivent pas être la même plage d'adresse que ce qu'il existe aujourd'hui dans votre data center et dans vos réseaux. Ce qui est tout à fait logique, hein, là on parle de réseau IP.
Alors tu parlais de montée en charge et de tolérance de panne, c'est évidemment le cas du côté Azure. Si on veut faire ça du côté client, du côté de mon data center, il faut évidemment payer attention à la haute disponibilité de ce service-là en utilisant des services qui permettent d'avoir une seule adresse IP qui est exposée. C'est-à-dire que dans Azure, on ne pourra pas spécifier tu utilises tel routeur et puis si ça ne marche pas, tu vas utiliser tel autre routeur. Il va falloir s'assurer de services qui permettent la haute disponibilité d'une IP, donc des protocoles type HSRP et autres propres à chaque implémentation qu'on aura sur les fabriques, sur les matériels et sur le fournisseur.
D'accord. C'est vrai qu'en termes de configuration des serveurs VPN, on voit que on est soit sur du statique, un routage, soit sur du routage dynamique. Que de préciser d'autres, pas grand chose, ici vous voyez c'est tout à fait des protocoles relativement standards. Petit point sur peut-être le point site qui est dans le VPN routage dynamique où on fait du SSTP qui est l'acronyme de
Secure Socket Tunneling Protocol, effectivement du port 443 pour passer à travers tous les bons firewalls comme il est de bon ton de ces jours-ci.
Voilà.
Et puis après la crypto, hein, on le disait, c'est de l'AES, on fait de la négo de clés en utilisant IKE V1 ou IKE V2 qui permet d'être un petit peu plus rapide, un petit peu plus efficace dans les opérations. En tout cas, le transport se fait sur de l'internet en utilisant de l'IPsec en mode SP. Et puis, on a un nombre maximal de connexions pour le mode routage statique, le mode legacy un petit peu, qui est de 1 pour les modes site à site. On a 250 connexions possibles pour le point à site et 10 connexions possibles pour le site à site.
Dans le cadre du routage dynamique.
Exactement. Ça nous permet d'établir avec une passerelle Azure, une liaison avec un autre VNet dans Azure, un autre VNet dans un autre Azure, un petit peu plus loin sur la planète. Et puis, une ou deux liaisons avec un data center de mon entreprise.
Et ça, c'est une chose qu'on demandait depuis qu'on a commencé à faire du VPN dans Azure, de pouvoir effectivement avoir plusieurs connexions depuis un point, depuis une passerelle VPN.
Et bien maintenant, c'est dedans.
Alors, Les équipements qui sont validés pour fonctionner sont, bah, sont les constructeurs qui sont présents ici. Hein, donc, notre serveur VPN 2012 R2.
Donc le RAS, de Windows. Après, tous les matériels classiques, le Juniper, le Citrix, Cisco, F5 et le WatchGuard. Et puis, on en a récemment validé un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec eux pour être sûr que ça fonctionne, en fait.
Attention, petit point qui n'est pas une erreur de notre part, un petit point grammatical, le texte.
Chaque mot compte sur ce slide, il n'y en a pas beaucoup, mais chacun compte.
Exactement. Le mot valider n'est pas neutre. Il n'y a pas écrit équipement supporté, il y a écrit valider. Ça veut dire que ce sont des équipements qui ont été testés avec les services Azure par nos équipes et qui ont dit « Ok, ça marche ». Nos équipes ne sont pas là pour le support des différents constructeurs qui sont ici. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas d'engagement par rapport à ça. Par contre, techniquement, ça a été testé, techniquement, c'est validé.
Voilà, et puis même pour un certain nombre d'entre eux, pour les premiers de la liste que je vous montrais tout à l'heure, on fournit même un exemple de script qui permet de voir les sections principales du routeur qu'il faut configurer pour que ça marche.
Exactement. Et dans le cas de 2012-2012 R2, on fournit un petit script PowerShell qui permet en fait de configurer l'ensemble du serveur RAS.
Alors, il y en a un petit, il y a une petite exception, le seul qui est supporté par Microsoft dans cette liste.
C'est celui de
Windows Server 2012. C'est plutôt pas trop mal, en
fait. Ce qui est plutôt aussi assez logique, en fait.
Alors, on le disait, hein, l'établissement des connexions site à site, ça, c'est ce à quoi on a, entre guillemets, l'habitude d'avoir affaire. C'est cette belle petite console qui permet de dire, bah, voilà, j'ai une liaison entre mon site Dublin Cloud VNet et mon site Data Center. J'ai l'adresse IP de la passerelle du point de vue de Azure. Et puis là, j'ai la quantité de données entrantes et la quantité de données sortantes sur ma plateforme. Donc ça, c'est là le mode de site à site avec un seul site en face.
Donc ça, c'est toujours le mode de site à site avec un seul serveur en face. C'était le mode d'origine. Comme on vient de le dire, désormais, une passerelle VPN Azure va pouvoir être connectée à plusieurs autres sites, donc avoir plusieurs tunnels. Du coup, changement d'interface.
Et du coup, il y a une autre interface, en fait, qui est disponible une fois qu'on a fait tout ça. Parce qu'en fait, tu le disais, on a réalisé l'option, il n'y a pas encore d'interface graphique à l'heure actuelle qui permet de le faire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on doit créer les VNet locaux et les VNet distants. Donc qu'est-ce qui symbolise mes réseaux distants de mon data center et qu'est-ce qui symbolise mes réseaux locaux dans Azure? On doit exporter le fichier XML de configuration. Dans ce fichier XML, on doit aller modifier la liaison site à site dans la section Gateway pour dire « Tiens, en fait, tu te connectes avec un tel ». On doit réimporter le fichier de configuration. Là, il va vous dire, ah bah tiens, j'ai détecté qu'il y a un petit changement là dans cette section-là et là.
Exactement.
Est-ce que tu veux valider ça? Là, on dit, vas-y. On récupère ensuite la clé partagée qui a été générée lorsqu'on a validé ce fichier. Donc là, on fait un get Azure VNet Gateway Key. Donc on récupère ce qui était défini au préalable. Ou alors, on pousse la sienne pour matcher celle qu'il y a dans l'équipement réseau en face. Et on fait un set Azure VNet Gateway Key. Et puis, une fois qu'on fait ça, eh ben, on a effectivement une console qui regroupe ces différentes vues. Alors, regardons un petit peu dans ma console ici à quoi ça ressemble. Donc, j'ai mes réseaux virtuels dans Azure. Là, j'ai un petit peu l'ancienne console où tu vois que j'ai un réseau Dublin Testnet qui est relié à Azure Dublin Prodnet. Donc là, c'est un autre VNet qui est dans Azure. Ils sont reliés entre eux par cette passerelle. J'ai aussi configuré, ça c'est la partie point site, donc des clients qui peuvent venir se connecter. Donc j'ai ajouté un certificat racine sur lequel je vais avoir des machines clients qui vont avoir un certificat émis par la même autorité de confiance. Et puis, pour aller voir cette variation, et ben c'est par ici, le Dublin Prodnet. Tu vois qu'en fait là, j'ai bien une liaison avec Dublin Testnet, celui qu'on vient juste de voir, mais j'ai aussi une liaison avec Data Center Élysée. Et là, on voit j'ai la quantité de données qui a été échangée entre ces différents data centers. Magie de la bête, bah, le routage est effectué soit par la passerelle Azure, soit par la passerelle de mes différents data centers qui sont là au bout de tout ça. Puisque à chacun des connexions, on déclare les routes qui sont à l'autre bout pour faire que ça communique de manière correcte.
Très bien. Alors du coup, avec ça, on a plusieurs des nouveaux scénarios, du fait que maintenant on peut faire du multi-VNet à VNet.
Eh bien ouais, ça nous permet de faire plein de choses intéressantes, notamment de faire des connexions en mode full mesh. C'est-à-dire que tu as tes différents sites Azure qui sont connectés entre eux, et puis ils sont connectés aussi avec ton réseau de data center. Donc si jamais un lien tombe dans l'ensemble, tu as toujours une route, un chemin qui est disponible pour passer d'un point à l'autre d'une ressource. Ça te permet de faire des choses assez sympathiques, également comme du SQL always-on avec un serveur SQL dans un VNet, un autre dans un autre VNet, et puis un autre à la maison dans le data center de l'entreprise. Cette passerelle, elle permet de gérer 10 VNet. De la même manière, hein, si vous en avez besoin de plus, n'hésitez pas à faire appel au support d'Azure. Ils sont tout à fait dans la mesure d'étendre cette capacité. Mais pour l'instant, on s'est dit que 10, c'est un bon chiffre pour des gens qui commencent à utiliser cette fonctionnalité. Donc ça, ce sont les options qu'on connaît jusqu'à présent, le VPN IPsec via Internet. Ce qui est bien, ce qui nous offre cette fonctionnalité de routage, mais par contre, il n'y a aucune garantie de la disponibilité du lien. Et il n'y a aucune garantie de la bande passante non plus, ni de la latence. Donc ça peut répondre à un besoin qui permet de connecter une machine virtuelle un réseau d'entreprise à une machine virtuelle à l'intérieur du IaaS. Par contre, on annonce un nouveau service à l'heure actuelle qui est disponible, qui s'appelle ExpressRoute. Et ExpressRoute va permettre d'interconnecter votre data center avec Azure. Et là, pas seulement pour les machines virtuelles en mode IaaS. C'est-à-dire que ça va pouvoir concerner l'accès aux machines virtuelles dans le mode IaaS, mais l'accès au blob de stockage, l'accès au stockage d'Azure et toutes ces ressources d'Azure. Donc très intéressant pour avoir une connectivité complète. Et là, on a deux modes d'interco. Soit on est dans un mode point d'échange, donc on va directement avec ce qu'on appelle l'IX dans le monde internet, dans la salle technique, et puis on se relie, et puis on a un échange de données avec le point d'échange. Et puis là, globalement, on peut envoyer en mode grosse patate. Ou alors, on a le mode fournisseur d'accès, où là, on est plutôt dans un mode, c'est-à-dire qui est un petit peu plus facile à mettre en œuvre au niveau d'infrastructure, puisque là, c'est globalement ton opérateur habituel qui va venir te servir le lien avec son VPN MPLS ou ce genre de choses, ou de la liaison louée, pour te desservir dans tes différents sites. Donc ça va être à lui d'apporter la liaison par rapport à des services qu'il existe déjà, et d'utiliser cette infrastructure pour te relier à Azure. Donc deux types de setup bien particuliers. Dans le mode IX, on est facturé au débit et au volume échangé. Ça peut aller jusqu'à 10 gigabits par seconde. Vous savez, dans le mode IX, on laisse passer du trafic d'un côté et de l'autre, et puis on fait les comptes à la fin du mois entre ce qui est rentré et ce qui est sorti. Dans le mode fournisseur d'accès, là on est dans un mode beaucoup plus classique. On est facturé au débit, et la quantité sans doute est illimitée. Après, ça reste à voir avec chacun des fournisseurs, évidemment. Mais là, on est plutôt sur des liens un petit peu plus faibles, jusqu'à 1 gigabit par seconde, ce qui peut déjà quand même servir dans pas mal de cas business. Voilà pour cette nouveauté ExpressRoute, dont on rediscutera sans doute beaucoup dans les mois à venir, qui permet vraiment des applications très intéressantes avec une très faible latence et un accès au réseau vraiment très puissant.
Oui, on dit dans les prochains mois, parce qu'effectivement, le temps que les partenariats s'établissent avec les opérateurs telco nationaux ou les brokers de connexion qui, eux, sont multi-pays également, ça prend un peu de temps. Pour l'instant, à l'heure où nous faisons cette vidéo, il y a trois villes qui sont interconnectées. Que je ne dis pas de bêtises, il y a la Silicon Valley, Londres et
Washington.
Mais c'est en train de se développer, ça va se développer relativement vite.
Ouais, ça c'est pour la partie X, mais ça va venir. Après, au niveau de fournisseur, ça va vous aussi d'embêter votre fournisseur pour qu'il permette de faire ces fonctionnalités. On travaille évidemment avec les fournisseurs dans tous les marchés pour faire que cette fonctionnalité soit disponible auprès de tous.
Voilà. Donc si ces sujets vous intéressent ou si globalement d'autres sujets concernant les technologies sur lesquelles on parle, vous pensez que ce serait intéressant qu'on fasse des contenus ou des vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à nous envoyer un petit tweet donc @ArnaudLheureux ou @esquastana avec le mot-clé derrière, dièse court MVA, et on vous remercie.
Merci beaucoup.